Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Pascal Dussapin. Bonjour Pascal Dussapin.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Pascal Dussapin, vous êtes compositeur de musique, ou plutôt, je crois que vous préférez dire écrivain de musique.
C'est ça. Oui, parce que le réel de mon travail, c'est l'écriture. Et je suis un musicien un peu particulier, au fond, c'est-à-dire un musicien qui écrit la musique. Et non pas que d'autres ne le fassent pas, évidemment, mais c'est une très très petite partie de l'expression musicale. Je crois que si on regarde la musique écrite, on regarde la musique au niveau planétaire, je crois que c'est quelques pourcents.
Ah oui, c'est ça.
Oui.
Pascal Dussapin, vous ne vous souvenez plus exactement de la date de votre journée particulière. Ce dont vous vous souvenez, c'est que c'était un jour... Oui. De la fin de l'année 66.
Oui.
Et ce jour-là, tout a commencé pour vous. Pascal Dussapin, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir pour commencer cette émission d'écouter du Bach.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est la toccata et fugue en ré mineur, interprétée par Marie-Claire Alain.
Oui, un grand organiste. Oui.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette journée de la fin de l'année?
Cette journée-là, en fait, j'étais au lycée Faber de Metz. J'étais interne. Et sans que ce soit du reste un mauvais souvenir, c'était quand même assez dur. On était quand même 84 par dortoir.
Enfin. Ouf, ouais.
Et un jour, j'ai été collé pour un très très mauvais comportement. J'imagine que j'avais dû laisser tomber un crayon, quelque chose comme ça, en classe. Enfin, on punissait vite à l'époque et je me suis retrouvé collé. Donc la colle, ça rigolait pas. Hein. C'était... On était punis de week-end, quoi. Il fallait rester le week-end dans ce lycée qui était à l'époque assez lugubre.
J'imagine.
Enfin, qui est très beau quand je le revois maintenant, je le trouve très beau. Mais bon, disons que j'ai 10 ans, hein. Enfin, et je trouve ça pas très drôle. Et donc, on était éloigné des parents pendant 15 jours du fait qu'on sautait évidemment un retour à la maison. Et alors, on devait être une vingtaine le dimanche matin. Comme ça.
Collé comme vous.
Collé comme moi, enfin de différentes classes. On était en troupeau, un petit troupeau comme ça. Et j'ai eu une surprise absolument incroyable. Alors je précise d'abord que je n'avais aucune éducation religieuse. Mon père interdisait qu'on aille au catéchisme. Alors imaginez en Lorraine avec le Concordat, tout ça, on était vraiment des apaches, quoi. Et je me retrouve avec l'obligation d'aller à la messe.
C'est votre punition d'aller à la messe.
Bah, c'est-à-dire que non, c'était la, enfin, dans l'esprit du lycée, c'était normal qu'on aille à la messe le dimanche matin.
Ah quoi. Oui, et comme vous étiez là un week-end,
Là en week-end, j'ai dû aller à la messe et j'ai pas pu dire, écoutez, moi, je connais rien, je savais rien de tout ça, quoi.
Et donc vous vous retrouvez sur.
Et je me retrouve dans l'église attenante au lycée Faber. Et je me souviens d'une gêne considérable, c'était une cérémonie pour moi totalement invraisemblable. Et alors, il fallait être debout, assis, amen, tout ça. Enfin, j'essayais de suivre un peu le mouvement général. Mais à un moment, retentit derrière moi quelque chose que j'avais jamais, mais jamais entendu. Enfin, je ne savais pas du tout ce que c'était, quoi. Cet instrument se met à chanter comme ça. Et ça m'a fait un effet, mais je crois que ma vie change comme ça en quelques secondes. J'accède à un monde de sons, de sonorités, de presque de résonance comme ça, pour le coup très très spirituel, voire mystique. Et là, ma vie est totalement bouleversée.
Par l'orgue.
Par l'orgue, oui.
Par la vibration.
La vibration.
La profondeur.
Oui, la résonance, le rapport à l'espace, des mondes sonores vraiment inconnus. Et puis évidemment. C'était inévitablement du Bach, et
ouais,
Bach
ça.
Ne m'a plus jamais quitté.
Mais est-ce que vous vous souvenez de votre corps ? C'est votre corps qui est rentré en résonance avec la musique, c'est une dilution comme ça dans l'espace, dans la résonance.
Oui, une évaporation de soi-même, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire même quand j'en parle encore maintenant, j'ai des frissons, quoi. C'est vraiment un sentiment très très physique. C'était entre la caresse et l'effroi, quoi. Vous voyez, c'était surtout l'incompréhension totale. C'est-à-dire je pouvais même pas dire oh j'aime. On n'est pas dans le j'aime ou le j'aime pas. On est dans la sidération, quoi. Donc c'est très proche de la peur. Hein. C'est une peur fondatrice, c'est une peur qui porte en elle une réaction, donc un avenir. C'est comme une naissance à quelque chose qui n'allait plus jamais me quitter.
Alors en 1966, Pascal Dussapin, les Doors enregistraient leur premier album.
Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Pascal Dussapin, vous avez une admiration sans borne hein, pour les Doors, ouais. Et particulièrement pour le clavier des Doors, ouais. Raymond Zarek.
Oui, alors j'étais aussi alors donc après moi je rentre dans une éducation, j'avais une éducation très très classique enfin mais ouais. mon premier niveau d'approche de la musique c'était classique. Bach, Beethoven, ouais. Des choses comme ça. Mais j'étais aussi un adolescent de l'époque et puis dans la cour du lycée on n'écoutait pas comme aujourd'hui les jeunes gens aujourd'hui ils ont pas idée de ce que c'était qu'écouter de la musique dans ces années-là. Enfin c'était un travail, c'était comme escalader une montagne quoi. Hein. Enfin on n'avait pas de magnétophone, on n'avait pas de cassette, il y avait même pas de disque, le Walkman ça existait même pas. Enfin donc mais en même temps ça passait quand même hein. Et ça passait très vite quoi. Hein.
Ouais.
Et quelque chose chez les Doors m'avait vraiment passionné parce qu'en fait il y avait double. Pour moi j'avais un double intérêt. C'était d'abord Jim Morrison, enfin les textes parce que c'est un grand poète. C'est un poète qui est associé vraiment au mouvement californien de la poésie qui était très important les années 60. Je conseille d'ailleurs toutes ses poésies sont publiées aux éditions Bourgois.
D'accord.
Et ce sont des textes quelquefois très engagés, qui étaient non seulement beaux, mais aussi l'époque, quoi. Hein. Enfin, ils parlent de choses quelquefois très très actuelles, comme la guerre du Vietnam ou des choses comme ça.
Oui, parce qu'on est en pleine guerre du Vietnam,
voilà,
en 66.
Oui, bien sûr. Et avec une peur constante de la fin du monde. On oublie toujours que dans ces années-là, on vit avec... on est vraiment dans l'apocalypse permanente, quoi. Mmh. Enfin, hein, on a toujours peur que la guerre éclate. Enfin,
c'est la fin du dégel. Révolution culturelle en Chine.
Ça coince absolument partout. Ouais. Enfin, et alors, pour revenir aux Doors, et il y avait cet organiste Raymond Zarek qui jouait cet instrument très incongru qui s'appelait le Vox Continental.
Et son petit orgue.
Qui était un petit orgue de 4 octaves. Et qui avait cette sonorité qui était très assez cheap, quoi, très nasillarde, et qui au fond est devenue pour moi une sorte de petite Madeleine de Proust comme ça. Et j'ai quelquefois essayé d'aller chercher ce son de l'imiter au fond. Et alors il y avait aussi ces improvisations très monotonales, monomodales même. Il reste, il module pas, il procède par renversement, mais en même temps, ça crée, surtout dans ce morceau, ça crée une courbe comme ça, très simple, mais parfaitement maîtrisée.
Vous lui avez rendu un hommage.
Oui, alors je traite des années après. je lui ai rendu un hommage parce
crypté
que.
Crypté et monomodal.
Ouais,
justement.
Alors c'est Bernard Foucroul, le grand organiste qui pendant 20 ans me demandait toujours une pièce et moi je lui disais non, je peux pas. C'est l'orgue, pour moi, c'est pas possible. C'est l'instrument interdit. J'ai tout raté avec ça. Et puis finalement, un jour, je me décide et je retrouve la possibilité de faire quelque chose pour l'instrument, précisément plutôt par cette partie-là de ma culture. Et donc, je décide de faire un hommage à Raymond Zarek. Alors, ça s'entend pas du tout, hein. Mais pour ça, c'est pour ça qu'il est crypté. Mais en tout cas, c'est monomodal aussi.
On écoute Memory. Voilà, c'était justement un extrait hein, de votre hommage à Raymond Zarek, hein, Memory.
Oui, alors on voit bien, par exemple, par association, j'espère que les auditeurs auront repéré ça, c'est-à-dire que j'ai fait enregistrer l'orgue pour de façon à pouvoir imiter l'orgue électrique. Quoi.
Ouais,
alors
qu'en
général, on fait le contraire, les orgues électriques qui essayent d'avoir l'air un peu liturgique. Et je fais toujours attention avec les organismes différents avec qui, quelquefois, je peux travailler. C'est de leur dire, attention, il faut que ça sonne vraiment 70, comme ça, il faut que ça sonne un peu, comme ça.
Alors, je reviens à votre journée particulière, Pascal Dussapin. Donc, fin de l'année 66, vous vivez votre premier choc musical en découvrant cet orgue.
Oui.
Au moment de la messe, vous avez 10 ans. Vous voulez alors devenir organiste, hein?
Oui.
Et ouais.
Ah, j'ai raté complètement.
Ouais. Vous avez raté parce que vous êtes tombé malade, en fait, et que vous ne pouviez pas faire de musique. Ouais. Vous êtes tombé gravement malade, vous étiez épileptique, et vous n'êtes pas devenu l'instrumentiste que vous...
Non, parce que le corps ne suivait pas. Au fond, l'analyse que j'ai faite a posteriori de ça, c'est que mon corps ne pouvait pas tenir, et j'étais très souvent empêché... J'ai quand même un traitement qui dure 9 ans.
De cheval.
Je prenais 14 pilules par jour. Ouais. Enfin, on ne savait rien sur cette maladie. D'ailleurs, je crois qu'on n'en sait pas plus aujourd'hui. Alors,
sur l'épilepsie.
J'en ai parlé quasiment jamais. Maintenant, j'en parle. Parce que, après tout, c'est ma vie. Et puis, je sais que ça peut aussi aider des gens qui connaissent cette maladie qui est toujours très taboue. Alors, en tout cas, pour revenir à mon petit cas, moi. Je suis là-dedans, je suis entre, en gros, les traitements, les hôpitaux, l'école d'orgue. Alors,
c'est
tout ça devient
de
un cauchemar.
Mais
ça a un avantage, et en même temps, ça m'a beaucoup donné. C'est que ça m'a tout simplement fait comme je suis, et ça m'a permis de mentaliser totalement la musique, et précisément de la rejoindre par le biais de l'écriture.
Alors, donc, il y a ce premier choc, l'orgue, et puis il va y avoir un deuxième choc musical, Pascal Dussapin. Oui. C'est quelques années plus tard, après donc des longues années de maladie. Vous décidez d'arrêter tous ces médicaments et vous rentrez à la fac de Vincennes.
Oui.
Et là, il va se passer à nouveau quelque chose qui va déterminer le reste de votre vie. Vous allez en cours. Comment s'appelait ce professeur déjà? Francis Baillère.
Francis Baillère, oui.
Et là, il vous fait écouter ça. C'est l'Arcana de Varèse,
oui,
c'est
de
ça?
Edgar Varèse. Alors ça, Edgar Varèse, c'était un compositeur français qui a émigré aux États-Unis dans les années 20 et qui était véritablement un pur génie, enfin un type qui avait sans doute une oreille intérieure assez extraordinaire, car cette pièce-là date des années 20. Hein, c'est assez incroyable.
Et qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous entendez ça,
Pascal? Ma vie bascule totalement.
Encore
en 19
une fois.
Minutes, mais encore une fois. Ça, c'est la deuxième claque. Oui. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça, c'est vraiment le passage à l'écriture. C'est-à-dire que quand j'écoute cette musique, je suis tellement baba que je sors de là. C'est comme tomber amoureux, quoi. Vous voyez passer une femme, enfin dans mon cas une femme, enfin voilà, et tout d'un coup votre vie change entièrement. Alors vous avez deux solutions, soit vous la laissez passer,
soit vous lui courez après.
Oui,
et vous avez couru après Varèse.
Voilà, c'est ça. J'ai dit, moi je veux faire ça. C'est ça que je voulais faire. Je voulais faire cette musique-là. Alors là, je me pose une question très simple. Je me dis bon, voilà. Alors j'apprends que comme je connaissais rien d'Edgar Varèse, je me renseigne, voilà. Et puis Varèse est mort, voilà. Depuis dans les années 60, hein. Et je me dis, c'est qui après?
Qui est-ce qui a fait? Je peux travailler? Qui fait ce genre de musique?
Voilà, c'est qui le même aujourd'hui? Et là.
Et le même, c'est qui?
C'est Yanis Xenakis.
Magnifique.
Voilà. Pour moi, c'est Xenakis. Xenakis, il a un avantage extraordinaire. Il est vivant. Il enseigne à la fac, quoi.
Donc vous y allez.
Il y a des musiques qui peuvent être donné dans un endroit où il y a des musiciens ou des sources sonores spécifiques. Et alors les gens peuvent être autour et l'écouter d'une manière directe, sans faire de bruit ou sans bouger, c'est-à-dire assis ou couché. Mais en général, les musiques ont besoin d'une certaine distanciation et certaine préparation. On ne peut pas écouter de en blanc n'importe quelle musique à 10h du matin ou à 10h du soir. Et cette préparation peut être créée par certaines circonstances. Ce n'est pas comme quand on va dans un bistrot, encore que même dans ce cas-là, il faut une certaine préparation pour boire un Coca-Cola ou un demi.
C'était la voix de Yanis Xenakis, oui. Une voix toute douce, hein, et ses paroles là sont mixées avec le Polytope de Cluny, qui est oui. Une de ses œuvres.
Oui, ça pour le coup je connaissais en 72 au Polytope de Cluny. Mon père nous avait emmené, mon frère et moi. Et pour vous raconter l'histoire, c'est que c'était un spectacle de son et de lumière complètement dingue.
Ah ouais, c'est complètement dingue ce qu'on entend.
On est entré et dès que ça a commencé, mon père m'a pris par le col et a voulu me faire sortir. Tout simplement parce qu'il y avait tellement le choc lumineux que ça pouvait être très dangereux pour moi.
Vous, pour faire...
Et moi, j'ai senti que j'étais calme avec ça, qu'il ne pouvait rien m'arriver.
Pas de crise d'épilepsie.
Voilà, c'est ça. Parce que la moindre lumière un peu rapide pouvait me faire calancher direct. Et mon père a passé, je ne sais pas, ça devait durer 20 minutes, 30 minutes, quand même assez longtemps, complètement inquiet. Et moi, j'étais là, couché par terre, à regarder les lasers, les flashs et tout ça. Et il ne m'est rien arrivé. Ce qui fait que quand... 2 ans après, je rencontre Varèse, comme on le racontait tout à l'heure. Je sais déjà qui est Xenakis. Enfin, j'ai déjà une expérience avec lui. J'ignore quasiment toute sa musique, mais je sais que c'est vers lui qu'il faut aller et pour en savoir plus.
Comment ça se passait, les cours? Parce que c'était dingue, apparemment, ces cours.
C'était un cours d'esthétique. Donc, il avait des thésards, des gens très, très éduqués, comme ça. Il y avait...
Vous compreniez?
Non. Je comprenais rien.
Mais il se passait quoi? Il pouvait parler.
Alors, il se passe tout simplement ce que j'attendais depuis longtemps. Ouais. C'est que moi, mon rêve, enfin, je l'ai compris après, mais je le dis vraiment sérieusement aujourd'hui, que je ne voulais pas qu'on s'intéresse à moi.
Ouais.
Moi, je voulais m'intéresser aux autres. Et je voulais surtout pas rendre compte de quoi que ce soit à un professeur. J'avais eu tellement de mauvaises expériences avec tous ces horribles profs qu'il y a en général dans la musique, qui sont des autocrates prétentieux. Enfin, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais enfin, tous ceux avec qui j'ai eu affaire, c'était des désastres incroyables. Et Xenakis, moi, je l'ai suivi ses cours pendant 4 années.
Il vous a jamais vu?
Pendant les 2 premières années, je ne lui ai quasiment jamais parlé. Je faisais que écouter. Et c'est la 3e année, quand il m'a vu à nouveau assis sur le banc en face de lui, il s'est amusé, je me souviendrai tout le temps. Et on s'en amusait ensemble après, des années après, que je suis resté très lié avec lui. Elle me disait, mais vous êtes encore là, mais qui êtes-vous? Je me souviens. Et donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et moi. C'est pour ça que, quelquefois, on me dit, vous avez étudié avec Xenakis était votre professeur. Moi, je dis toujours la même chose. Je dis, non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais étudié avec Xenakis. Il n'a jamais été mon professeur. Mais il a été mon maître. Il était un maître à liberté pour moi. Et aujourd'hui, on s'étonne quelquefois, surtout à l'étranger. Encore récemment, j'ai donné une interview en Allemagne comme ça, où les journalistes, mais je connais ces choses-là, ça m'arrive régulièrement. On me dit, mais c'est drôle parce que votre musique ressemble pas du tout à Xenakis. Alors je dis, justement, c'est ça qui m'a appris.
À ne pas lui ressembler,
à trouver mon chemin, et j'ai appris ça auprès de lui parce qu'il était tellement épris de liberté, il était tellement pas conventionnel, tellement pas académique, tellement pas inclus dans cette tradition extrêmement autoritaire de la musique classique et pétri de convictions inébranlables, enfin. C'était plus un créateur pour moi qu'un compositeur. Il était une fantastique usine à liberté. Et je crois que j'ai su capter ça. Et au début, ma musique ressemble beaucoup à celle de Xenakis. Et très progressivement, s'en détache. Après l'avoir, je pense, totalement intégré. Quoi.
Digéré.
Mais ça m'a permis de rester aussi très, très libre en face de lui. Et de n'avoir jamais eu à tuer le père.
J'adore votre rire. On vous écoute, vous.
Was spricht die Tiefe mit der Nacht? Thank you. aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist als der Tag gedauert, tief ist dir Lust, tiefer noch als
difficile de prendre la parole après ça.
Oui, alors ça, c'est Omensch, Omensch, oui. Sur des poèmes de Nietzsche pour voix et piano. Alors, c'est un très grand cycle.
Ouais, que vous avez composé.
Qui dure 75 minutes, hein. Ouais. C'est un vrai petit opéra, en fait. D'ailleurs, il a été mis en scène. Je l'ai moi-même mis en scène au début. Et il est ici joué par Georg Nigel, qui est mon chanteur.
Votre chanteur.
5 opéras avec lui, dont le dernier encore, là, il y a quelques semaines, à la Monnaie de Bruxelles, et la sublime Vanessa Wagner.
Au piano.
Qui est ma pianiste chérie.
Alors, c'est une œuvre qui est inspirée de l'œuvre de Nietzsche. Nietzsche est un de vos livres, enfin, les livres de Nietzsche. Livres de chevet.
Oui, oui, bien sûr. Et Nietzsche, et c'est vraiment quelqu'un qu'on peut lire toute sa vie dans tous les sens.
C'est ce que vous faites, vous relisez?
Oui, toujours, ouais, toujours. J'ai vraiment une vue, comme disait je ne sais qui d'ailleurs, il faut faire son Nietzsche, quoi. Et moi, je me suis fait mon Nietzsche, quoi. Et alors, il a une activité de poète qui est assez méconnue. On l'associe toujours à la philosophie. Enfin, évidemment ouais. c'est un philosophe. Mais il a écrit énormément de poèmes. Et puis aussi, une partie de sa production, en particulier C'est clair, jusque dans le Gai Savoir, est vraiment basée sur l'écriture de poèmes. Et là, je suis assez heureux parce qu'il y a toute une traduction des poèmes de Nietzsche qui vient de sortir, complète, là, très très belle.
Ouais, de toute façon, la littérature... L'écriture, la littérature est au centre de votre vie.
Oui, c'est même la même chose, au fond. Les chemins qui mènent à la musique ne passent pas toujours par la musique.
Ça peut passer par la littérature.
Ça peut passer par beaucoup de voies très différentes. Et ce qui est important, au préalable, c'est d'être d'abord dans ce qui est la création. Après, vous pouvez devenir musicien, mais architecte, cinéaste, romancier, photographe, etc., danseur, vous pouvez, je sais pas, faire plein de choses. Mais ce qui est important de toujours garder à l'esprit, c'est que ce que le cerveau construit est toujours antécédent à la matière même, quoi. Alors évidemment, moi, je suis profondément musicien. En gros, je sais faire que ça. Mais quelquefois, les chemins qui mènent à la musique passent d'abord par la littérature. Donc chez moi, tout est littérature. Et même quand j'écris une pièce pour grand orchestre, j'ai toujours l'impression de faire un roman, enfin, de créer un petit ou un théâtre. C'est pour ça que je suis aussi prolifique, je crois, dans le domaine de l'opéra. Et c'est parce que précisément, il me permet de concilier comme ça mon amour de la littérature, qui est l'amour naturel et le plus évident chez moi au départ, mais par la musique. Donc je suis une sorte de cas un peu bizarre comme ça.
Alors il y a une voix qui est importante pour vous en littérature, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est incontournable quand on parle de vous, Pascal du Sapin, c'est Samuel Beckett.
Il n'y a pas de nom pour moi, pas de pronom pour moi, tout vient de là. On dit ça, c'est une sorte de pronom, ce n'est pas ça non plus, je ne suis pas ça non plus. Laissons tout ça, oublions tout ça, ce n'est pas difficile. Il s'agit de quelqu'un, ou il s'agit de quelque chose, voilà enfin, qui n'est pas là, qui est loin, ou qui n'est nulle part, ou qui est là, ici, pourquoi pas, après tout. Il s'agit d'en parler, voilà, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi il faut en parler, c'est comme ça. On ne peut pas, personne ne peut en parler, on parle de soi. Quelqu'un parle de soi, c'est ça, au singulier. Un seul, le préposé, lui, moi, peu importe, le préposé parle de soi. Ce n'est pas ça. D'autrui non plus, il n'en sait rien, comment le saurait-il, s'il en a parlé ou non, en parlant de soi, en parlant d'autrui, en parlant des choses. Quel autrui, quelle chose? Le préposé, en parlant de soi, c'est moi, en parlant de moi. Comment savoir?
Comment savoir, Pascal du Sapin, c'était une archivina de 1968, extrait de l'innommable de Samuel Beckett, lu par René Farabet. Vous partagez quoi avec Beckett, Pascal du Sapin? Une impossibilité?
Oui, alors ça c'est Beckett, c'est quelque chose qui est venu très très jeune aussi, enfin, j'ai une vingtaine d'années et ça ne m'a jamais quitté. Beckett, c'est toujours une question, c'est... Alors c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais quand même, je vais le dire, c'est une sorte de pureté dans l'élocution, une non-compromission avec à peu près tout, un radicalisme, même si le mot aujourd'hui, évidemment, revient d'autres significations, mais en tout cas, quelqu'un qui va tout au bout et qui, de façon extraordinairement paradoxale pour moi, ferme à peu près tout, car si vous lisez bien Beckett, tout devient impossible, tout se ferme, tout se réduit. Beckett termine sa vie en écrivant des textes qui sont véritablement, qui tiennent sur une demi-page, enfin, il arrive à une ascèse, mais absolue, enfin, mais d'une exemplarité, je dirais, dans la tension, qui est très très fascinante pour moi. Alors, une fois qu'il a tout fermé, en fait,
ça
précisément,
s'ouvre.
Tout s'ouvre. Hein. Et donc, Beckett, j'y reviens constamment, de façon presque anarchique. Je suis capable de prendre un livre de Beckett dans ma bibliothèque sans savoir, même sans savoir lequel j'ai pris. Et puis je l'ouvre au milieu et je lis quelques pages et à chaque fois j'apprends. C'est pour ça que dans ma musique, dans beaucoup de mes partitions, il y a des citations de Beckett qui sont entre les lignes comme ça et qui sont quelquefois même des sortes de petites didascalies pour les musiciens. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Mercier et Camier, par exemple une phrase qui dit « ça changera tout », dit Camier, et ben non, ça changera rien. Enfin, il y a toujours des apories comme ça qui sont édictées et qui au fond désignent un mouvement de faire, vous voyez, un mouvement de construire, et puis en même temps un désespoir presque ironique comme ça. Alors il est beaucoup associé, Beckett, à des histoires de clochards à cause de Godot, enfin. Mais en fait, c'est aussi un extraordinaire créateur de formes. C'est un inventeur, c'est un vrai architecte de formes, comme ça, de
oui, c'est ça, vous êtes sur la forme, sur l'architecture, la construction. Là, oui, on vous retrouve.
Oui, oui, mais aussi des constructions émotives.
Il y a le corps, est là.
Oui, le corps est toujours là.
Ouais. Dans votre musique
oui,
et dans votre façon de
lire.
Bien
sûr, oui. C'est tout ça, ça m'a permis de recomposer le corps. Et le mien, évidemment, mais aussi celui de mon rapport avec l'extérieur et avec le public, avec l'auditeur.
Ça vous permet d'être avec l'extérieur, de pouvoir être en relation avec...
C'est ce que j'attends de l'art, moi, c'est qu'ils viennent toujours vers moi dans une idée très constructive, comme ça, de moi. C'est-à-dire que j'ai envie qu'ils me fondent, qu'ils m'architecturent moi-même. Donc quand je fais ça... Très modestement, je me dis que dans le sens inverse, ça devrait peut-être marcher.
Pour les autres.
Pour les autres, oui.
Et c'est pareil quand vous lisez Flaubert.
Oui, alors Flaubert
vous architecture de l'intérieur.
Oui.
Je vous aurais répondu plus tôt, ma chère amie, si je n'étais tellement harassé de ma Bretagne, que j'ai grand hâte de finir, que je ne suis guère en état d'écrire même un bout de lettre. Répondez-moi, je vous prie, comment va votre santé d'abord, et le drame ensuite. Quant à moi, les nerfs me tourmentent toujours un peu, et de plus j'ai pour le moment un rhumatisme dans le cou qui me donne un air assez ridicule. Mais tout cela serait peu de chose sans le style, qui me gêne beaucoup plus que toutes les maladies du monde. Voilà 3 mois et demi que j'écris sans discontinuer, du matin au soir. Je suis à bout de l'agacement permanent que cela me procure, dans l'impossibilité incessante où je me trouve de rendre. Les bourgeois auront beau dire, cette crème fouettée n'est pas facile à battre. Plus je vais, et plus je découvre de difficultés à écrire les choses les plus simples, et plus j'entrevois le vide de celles que j'avais jugées les meilleures. Heureusement que mon admiration des maîtres grandit à mesure, et loin de me désespérer par cet écrasant parallèle, cela ravive au contraire l'indomptable fantaisie que j'ai d'écrire. Le temps est gris, le ciel blanchâtre et sale, terne et tiède comme l'ennui. J'ai pour horizon toute la journée en travaillant les pains de sucre de la boutique d'un épicier. Mon Dieu, que la vie est bête. Adieu, ma chère Louise. Je vous embrasse tendrement sur le cœur. À vous.
Pascal Dussapin, vous avez évidemment reconnu, c'est un extrait de la correspondance
de Louise Collet, ouais, voilà, et c'est de ça. Gustave Flaubert.
Ouais.
Alors ça, c'était absolument génial pour moi, parce que c'est avec ça, c'est avec la correspondance de Flaubert que je comprends l'art.
Ce que c'est créé.
Ce que c'est créé, oui. Alors moi, j'étais...
C'est comme la crème fouettée
Je sais pas.
Mais c'est parce qu'est-ce qu'il dit, oui, crème qu'il fouettée, dit, la crème fouettée est pas facile à battre pour vous aussi.
C'est-à-dire moi, alors moi j'étudiais l'orgue là quand je découvre ces textes, j'ai une quinzaine d'années quand je découvre l'orgue, je suis pas très bon, enfin etc. Mais surtout je vis avec l'idée que ce monde m'est absolument inaccessible. Alors en plus l'orgue, vous êtes toujours dans les églises, à travailler avec des vieux maîtres et qui vous disent qu'en gros que ce que vous tentez de jouer est inatteignable. Et puis surtout que quand vous étudiez Bach à
Le bac.
On vous explique que c'est Dieu qui est derrière et que si vous n'êtes pas touché du doigt de Dieu, vous n'y arriverez jamais. Et en fait, quand je découvre Flaubert, je lis les textes, Madame Bovary, etc. Et puis j'accède à la correspondance. Et là, je découvre un truc très très simple. C'est par les lettres à Louise Collet en particulier, c'est que Flaubert ne cesse de se plaindre sur des pages et des pages qu'il n'a pas réussi à écrire 3 lignes dans Madame Bovary et des choses comme ça.
Que c'est dur.
Que c'est difficile. Ouais. Et tout d'un coup, je comprends que l'art, c'est du boulot. Mais c'est juste que du boulot. Ben, vous comprenez, pour moi, c'était incroyable. Moi, je pensais qu'il fallait être illuminé par une présence divine qui vous choisissait parmi des milliards d'autres. Et tout d'un coup, je comprends que c'est du travail, quoi. Et alors ça a tout changé. Et ça a tout changé. Je me suis dit, en fait, il faut juste bosser, quoi.
Et c'est ce que vous faites, Pascal.
Et c'est ce que je fais.
Vous bossez, voilà. vous imposez des contraintes.
Oui, alors.
Pour ne pas vous laisser envahir par la musique, parce que la musique est tout le temps là chez vous, c'est ça?
Oui, la musique, elle est là, mais elle est pas, elle est évidemment, enfin, en moi, quoi qu'encore c'est prétentieux, parce que j'ai plutôt tendance à la tenir à l'écart, parce qu'elle me fait tellement d'effets. Que sur le corps précisément que je fais attention. Alors après la musique,
c'est-à-dire encore aujourd'hui, vous êtes bouleversé par la musique de la même façon que vous avez été bouleversé en 66 par l'orgue et après par Varèse.
Ça c'est très précieux pour moi la musique, j'en écoute pas beaucoup.
Parce que c'est trop de changements, trop de bouleversements moléculaires comme vous dites.
Oui, c'est-à-dire je respecte tellement la musique que je ne la tutoie pas quoi. C'est-à-dire je la vouvoie avec respect et je tiens les distances, quoi.
Et pourquoi? Parce que sinon quoi?
Parce que vous savez, quand on avance dans ce métier, maintenant j'ai un certain âge, hein, n'est-ce pas? Et vous voyez des gens qui dominent les choses.
Oui.
Ils sont là, surtout les solistes, quoi. Enfin, il y a des fois, ou même, même des amis. Enfin, ils sont là. Ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je joue les Goldberg là, il faut que je joue le 3e de Beethoven ici, etc. Ils ont l'impression que c'est des copains, quoi. Vous voyez.
Non.
Moi, je suis pas interprète, malheureusement. Mais je veux dire, moi, quand j'écoute même la moindre œuvre de Mozart ou de Berlioz ou que sais-je, je reste extrêmement attentif, extrêmement respectueux. Je ne pense pas que c'est normal et je suis extrêmement poli et je peux vous dire que j'écoute avec beaucoup d'attention.
Alors, on va vous écouter encore une fois, Pascal Dussapin. Morning in Long Island, Pascal Dussapin, oui, c'est aussi une de vos œuvres. Souvenir d'une balade.
Oui, c'est vrai. Avec Cadio. C'est une très grande pièce pour grand orchestre qui commence tout ça très doucement, qui se termine dans une fanfare indescriptible.
Pour célébrer la beauté de cette matinée.
Oui, c'était un souvenir avec l'écrivain Olivier Cadio dans une maison. Enfin, disons que ce n'est pas la description de cette promenade, mais en fait, c'est grâce à cette promenade que j'ai faite il y a maintenant, ça fait tout juste 30 ans, c'est affreux de dire ça, où j'ai eu un sentiment sur Long Island, enfin, où il faisait tellement froid qu'il fallait absolument que je bouge, c'était le milieu de la nuit. J'ai fait une promenade incroyable comme ça, j'étais environné par des éléments d'une dimension que je ne connaissais pas, tous ces souvenirs de formes, de sons, de parfums, de vent, de vitesses différentes, de l'eau, se sont mélangés en moi et ont créé des formes qui ont presque explosé 20 ans après. Cette pièce a une dizaine d'années aussi.
20 ans après cette balade.
Et Cadio, il m'avait dit, un jour tu feras une pièce qui s'appellera Morning in Long Island. Et j'ai fait ça 20 ans après, oui.
Et là, alors, si j'avais beaucoup plus de temps, Pascal Dussapin, j'aimerais savoir comment ça se passe dans votre tête, quoi. Qu'est-ce qui se passe pendant 20 ans pour que 20 ans après, vous arriviez à écrire les lumières et les couleurs et les odeurs?
Il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire, d'abord, on ne sait pas ce qui se passe.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà.
Et c'est quand je dois répondre à une commande de Myung Woon Chung, ici, de la radio, d'ailleurs, c'est une commande de la radio, Radio France, pour l'Orchestre Philharmonique et Chung. Je commence cette pièce comme ça. Alors en 20 ans, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des pièces d'autres pièces d'orchestre, dont tout un grand cycle. Enfin, j'ai fait des opéras, enfin plein de trucs. Et puis d'un coup, je fais cette chose-là. Et puis vous ne savez pas pourquoi, mais tout d'un coup, le souvenir revient. Et tout d'un coup, votre imaginaire se retrouve presque en face de ce vieux souvenir. Et ce vieux souvenir, tout d'un coup, vous dit « Écoute, maintenant, tu vas faire quelque chose avec ça, quoi. » Et tout d'un coup... Oui, quelque chose se fait, mais quelque chose qui n'est pas une reconstruction du souvenir, mais qui est peut-être même pas une métaphore, mais qui est la possibilité, tout d'un coup, de créer une forme. Alors là, je parle toujours de ce souvenir, mais j'aurais pu très bien ne pas en parler, jamais, et que ça reste très crypté, très secret, comme ça. Et après tout, voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le titre lui-même est tellement énigmatique que les gens m'interrogent. Alors je suis bien obligé de raconter cette histoire.
Une journée particulière, Zoé Varier, sur France Inter.
Pascal Dussapin, c'est bientôt la fin de cette émission et toujours dans les quelques dernières minutes, j'aime reprendre quelques événements de cette année 66. Et l'année 66 a commencé bien sûr avec les vœux du général de Gaulle.
Pour la France, la nouvelle année peut et doit être l'année de la sérénité, de la confiance et de l'ardeur. L'année de la sérénité, car il n'y a pour nous actuellement ni angoisse au-dedans, ni combat au-dehors. Les troubles profonds qui nous étreignaient naguère, confusion politique permanente, faillite imminente, subversion menaçante ne sont plus que de mauvais souvenirs, à moins même qu'on les ait oubliés.
Pascal Dussapin, c'est incroyable, hein, ouais. la subversion menaçante, une année de sérénité, de confiance et d'ardeur. Un peu plus tard dans son discours, il dira que le niveau de vie des Français s'élèvera dans l'année à 4%, de 4%. C'est le discours des Trente Glorieuses.
Mais De Gaulle, moi je m'en souviens très bien quand j'étais enfant. On n'a pas idée de ce que c'était aujourd'hui. Enfin, quelqu'un de jeune aujourd'hui ne peut pas comprendre ça. Enfin, heureusement, je dirais. Mais De Gaulle, c'était vraiment une figure tutélaire, mais absolument incroyable. Moi, je me souviens, De Gaulle, j'avais peur qu'il arrive à la maison.
Le père Fouettard.
Non. Tout d'un, je sais pas. J'avais pas. Enfin, peur. Oui. Quelquefois, je me disais, mais il peut revenir à la maison, quoi. Comme ça, rentrer dans la cuisine. Moi, je me souviens d'images comme ça. Il était tellement présent. Et alors, ça peut paraître fou, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, machin, les télés, tout ce bazar, vous avez l'impression que les gens sont présents, mais en fait, ils sont tellement là qu'ils sont absents. Vous voyez, Macron, il est là, puis il est pas là, quoi. Mais De Gaulle, c'était une figure tutélaire. Je le vois. On recevait le Républicain Lorrain une fois par semaine. Alors, une fois par semaine, c'est moi qui allais chercher le journal au fond, au bout du jardin, que la préposée au poste déposait.
Ouais.
Et j'avais toujours, deux trouilles. D'abord, c'était la déclaration de la Troisième Guerre mondiale. J'avais toujours peur de voir ça. Et il y avait inévitablement une photo de De Gaulle en première page.
Alors, surtout l'année 66, certainement, oui. Puisque De Gaulle est très présent. Et c'est surtout l'année où il décide que la France sortira de l'OTAN.
Voilà, oui.
Et donc, certainement, vous, cette année-là, oui, vous avez dû voir...
Vous voyez les titres comme ça, qui étaient... C'était effrayant.
Mais vous aviez peur, en fait. Ce que j'entends, Pascal Dussapin, c'est que vous aviez peur.
J'avais peur de la guerre tout le temps.
Ouais.
On avait peur de la guerre atomique, parce qu'il y avait toujours des spéculations sur la fin du monde.
Bah, c'est la guerre froide.
La guerre froide, oui.
C'est la guerre froide, donc vous étiez dedans.
Le monde était incroyablement, disons, plus simple, en ce sens qu'il y avait l'Est, l'Ouest, les bons, les méchants. Enfin, ça dépendait du côté où on était, quoi. Mais il y avait une tension entre les blocs qui était absolument invraisemblable.
En 1966, et c'est un cadeau qu'on vous fait, les Beach Boys.
Oh, bah oui.
Chantez quoi?
Good Vibration.
Eh ben oui. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Pascal Dussapin, je crois que vous pouvez parler pendant plus de 30 minutes sur cette chanson.
Ah oui, cette chanson que j'adore. Et je pense que c'est incroyablement sophistiqué, c'est dans tant au niveau du texte que des arrangements, mais surtout d'une chose très très particulière qui ferait qu'aujourd'hui, je pense que ça passerait pas sur les ondes.
Pourquoi comme... tellement c'est bien écrit,
mais
tellement c'est fin.
Il y a trop de changements de tempi, d'allure. Il y a pas les codes suffisants aujourd'hui pour passer en boucle sur les radios. Je pense que c'est une chanson qui ne passerait pas du tout. Et y a un changement de tempo, de mesure en plein milieu, puis ça revient. Enfin, c'est très formé comme musique. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre de la pop musique de cette époque.
Moi, que vous écoutez?
Ah oui, mais j'écoute ça. J'ai une version qui est toujours sur mon bureau d'ordinateur, chantée par les King Singers,
ouais.
Qui sont un groupe de musique classique anglais, qui sont des merveilleux chanteurs. Et quand j'ai un petit moment de blues, hop, j'appuie dessus pour et ça me redonne instantanément l'énergie, ça me fait sourire, je sais pas pourquoi ça me touche beaucoup, quoi.
Bon, l'émission est terminée, mais je peux pas terminer cette émission sans parler d'une figure de votre famille qui était là avant l'orgue, avant 66. C'est votre oncle René.
Ah oui.
Et c'est avec lui que vous avez entendu pour la première fois de la musique.
Oui, ah oui.
L'oncle René qui jouait de l'accordéon.
Ah oui, mais l'oncle René jouait de l'accordéon. Alors l'oncle René, c'était vraiment un Alsacien, en fait, du côté de ma mère, le frère des frères de ma mère. Et c'est aussi mon parrain. Et c'était un être assez extraordinaire qui est devenu très important pour moi encore aujourd'hui. Parce que c'était quelqu'un qui avait la polio déjà. Il marchait à quatre pattes. Il était totalement illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Mais il était doué en tout. Et il jouait de l'accordéon. Alors évidemment, il avait aucune éducation musicale, comme on l'entendrait académiquement aujourd'hui. Mais je crois qu'il était extraordinairement doué. Et c'est par lui que j'ai entendu le premier instrument de musique.
Le souffle,
l'accordéon. Il jouait très bien, des musettes, des choses comme ça. Il faisait des balles. Hein. Et il était avec sa petite charrette, comme ça. Il se baladait, ou il marchait à quatre pattes, avec l'accordéon sur le dos. Et il jouait de façon très virtuose et il est mort donc il y a un certain temps et j'ai hérité de son accordéon. Il est toujours dans mon atelier.
Ah, vous avez l'accordéon
donc René. J'ai l'accordéon dans mon atelier avec moi.
Alors, il y a les Beach Boys, l'accordéon de l'oncle René, une
Jean-Sébastien
photo de
Bach, Zemeckis, Verres, vous voyez, Beethoven.
Ouais, Stravinsky, on n'a pas eu le temps d'en parler. Stravinsky. Une photo de Beckett.
Ouais, ouais.
Et là, c'est votre petit hôtel des ancêtres à vous, Pascal du Sapin. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. L'heure était trop courte. Alors, votre actualité est riche, richissime. Il y a une création.
Voilà, je sors de la création d'un opéra à la Monnaie de Bruxelles.
Macbeth and the World. Ouais. En 2020, il y aura une autre création qui s'appelle Waves. Oui. Où vous revenez sur votre instrument, sur l'orgue.
Oui, puisque c'est une grande pièce pour orgue et orchestre qu'on crée à la Elbphilharmonie de Hambourg et qui va se promener et qui va venir à la Philharmonie de Paris
en 2020. Et en février, vous avez la sortie d'un disque.
Oui, et puis Macbeth vient à l'Opéra Comique au mois de mars.
Et vous n'arrêtez pas.
Et puis ça continue.
En tout cas, toutes les informations seront disponibles sur le site de l'émission, sur franceinter.fr. Merci, Pascal du Sapin. C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, Alina Véronique de Saint-Pastou, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui Philippe Duclos. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.